Le 27 mars 2025 a eu lieu la présentation du numéro 202 du bulletin du Musée Basque, bulletin du Musée Basque consacré au centenaire du musée, lors d'une présentation proposée par le Musée Basque de l'Histoire de Bayonne et la Société des Amis du Musée Basque. Charles H. Bideguin, responsable du bulletin du Musée Basque, nous en fait la présentation.
J'en viens à l'essentiel, à ce bulletin qui est un centenaire. Puisqu'il est centenaire, il est historique dans le sens qu'il consacre l'essentiel de son contenu à l'histoire et en particulier aux responsables majeurs qui ont marqué donc la direction du Musée Basque, y compris dans les périodes qui n'ont pas été les plus favorables. Donc il y a aussi, je tiens à remercier ici Audrey Ferrabos, on a essayé une nouveauté, une frise chronologique qui court tout au long de l'ouvrage, là, quelque chose comme ça, qui marque un peu l'histoire du musée pour insérer un peu les événements historiques. Et ça part d'une première intervention du président sur pourquoi un musée a-t-il été créé et pourquoi il y a des individus remarquables qui ont fait un effort extraordinaire pour lancer le musée. En particulier, Sabine Cazenave fait l'article d'ouverture sur le fameux commandant Boissel qui, pendant 30 ans, presque autant qu'Olivier Ribeton, je crois, a dirigé le musée et l'a lancé le musée. Je crois que c'est un personnage tout à fait remarquable qui mériterait et qui mérite encore une monographie. Je crois qu'il y a énormément de correspondances. C'est un plaisir de l'être, ouais. De lire leur calligraphie, comme Erel, Cola. Ils n'écrivent pas comme nous, quoi, à la main. Hein. C'est extraordinaire. Et puis, il y a tout un tas de détails sur les premières personnes, dont, je crois, un ancêtre de notre Sabine, de Soule, qui trouve des objets et qui envoie ça depuis la gare de Mauléon. Il y a un train par wagon au Musée Basque, avec des charrettes et tout un tas d'objets. Donc, un effort tout à fait remarquable. Ça, c'est pour Boissel. Ensuite, il y a un article d'Étienne Rousseau-Ploteau qui n'a pas pu venir aujourd'hui, tout à fait remarquable, sur Philippe Vérin. Alors, Philippe Vérin, il est connu comme un peintre, mais il a écrit quand même Les Basques, qui reste un ouvrage de référence. Alors, il ne faut pas tomber dans l'anachronisme. Il a évidemment des positions politiques que tout le monde n'aurait pas aujourd'hui, mais peut-être oui. C'est très intéressant de voir comment il évolue petit à petit. Et c'est vraiment un personnage remarquable qui mérite aussi, je pense, un travail supplémentaire, avec en particulier les archives du musée. Parce que une des constantes, je le dis maintenant pour ne pas le répéter, c'est que le bulletin a tout intérêt et veut travailler aussi avec puisque c'est un vaisseau amiral, il y a une soute aussi dans le musée, il y a énormément de documents, il y a énormément de textes qui peuvent servir à nos articles pour le musée. Pour ça, il faut des auteurs et des autrices. Alors, on a Vérin. Ensuite, Louis Collat, il paraît qu'on dit Collas depuis avant-hier. Bon, Louis Collat, il fait l'objet de deux articles. D'abord de Michel Duvert, qui montre le rôle essentiel de ce professeur du lycée. Michel Duvert montre un peu qu'il est certainement trop soumis au primat intellectuel de certains chercheurs de l'époque. Passons, c'est quand même tout à fait remarquable de présenter l'auteur de la fameuse tombe basque qui reste la référence aussi. Et puis, j'en ai parlé en basque, Landeta, qui est un chercheur de Guipuscoa, propose d'insister sur le rôle de Collas dans le design de la fameuse lettre basque. C'est pas Collas qui l'a créée, parce que lui, il recopie très bien ce qu'il a trouvé dans les cimetières et sur les linteaux, mais il montre le sort de cette lettre basque à partir des années 20, justement, après l'apparition du travail, et qui a eu un rôle très important en termes d'esthétique. Ensuite, on tombe sur un article de Jean-Claude Laronde qui montre le rôle essentiel d'un mécène qui s'appelait Manuel de Winchausti, une immense fortune. La famille est encore là. On essaie de travailler sur le fond, d'ailleurs, on verra. Et il montre comment Winchausti a beaucoup aidé le musée. En particulier, il avait créé et payé de sa poche une salle sur la diaspora. Voilà pour une chose dite. Alors moi, on m'a demandé de faire un travail sur Harry Scheller, mais Harry Scheller en tant qu'animateur du musée, du bulletin. Alors j'ai trouvé, grâce au fils Harry Scheller, j'avais les lettres de nomination d'Harry Scheller. Alors entre nous, il n'est pas du tout fait pour être directeur du musée, mais il est sur la thèse, il est sur Richard Wynne, il est sur tout à fait autre chose. Il débarque au musée et parmi les choses qui lui importent, c'est de créer un bulletin de qualité scientifique, et il fait en se servant aussi des documents du musée, et c'est cela que je rapporte en montrant qu'il relance le musée dès son arrivée, alors que le bulletin avait arrêté en 1944. Donc 20 ans après, il relance le musée avec de nouveaux chercheurs. Ensuite, au dernier moment, Sophie Cazomayou a eu l'excellente idée de faire une interview de notre Manu Curuchari national, et en particulier de son programme Arlito, avec tous les aléas, mais qui a marqué quand même le musée en termes de recherche scientifique et pédagogique. Je crois que c'est un article très intéressant.
Originaire de Baïgorry, hein, Manu?
Oui, oui. Ne soyons pas méchants, dans l'article que je consacre à Richelar, on constate aussi un certain tropisme. Tous les auteurs de Haussès, Baïgorry, sont pas surreprésentés, mais bien représentés. Bon. Et parce qu'ils sont bons, hein, évidemment. Bon. Alors, après, on en arrive à la fameuse césure. Bon. Hier, le maire de Bayonne a parlé de l'injonction que la mairie avait reçue sur la fermeture du musée Bounand, en disant « Si vous ne prenez pas des mesures, vos œuvres du musée, elles disparaissent. » Alors ici, il y a eu, je ne me rappelle pas exactement comment ça s'est passé, et je vous conseille la lecture du texte, descriptif certes, d'Olivier Rubauton, qui montre comment cela s'est passé, et c'est très intéressant de voir tous les efforts qu'il a tentés pour maintenir en vie le musée par un certain nombre d'expositions, et par tout un tas d'activités, les unes ont été un peu mouristos, comment dire, un peu frustrées, oui, mais oui. Je crois que ça mérite la visite de l'article, et pour aller relancer certains projets de l'époque qui méritent, je crois, d'être repris. Je crois que cet article est très intéressant. Et notre ami Michel Duvert, lui, qui avait des responsabilités à l'époque, il a fait un article beaucoup plus court, dont le titre est « Fermé, point d'interjection, d'exclamation, oui. Fermé ». Et il montre les difficultés qu'il a eues, et en particulier, on peut le dire, avec les édiles de l'époque. Bon, je crois que ça montre que la vie de musée n'a pas été un fleuve tranquille, et les deux articles, je crois, se complètent. Il y a celui de Riboton qui est beaucoup plus complet sur l'activité, et l'autre qui est beaucoup plus... Pour Duvert, je dirais que c'est quand même un article affleuré, moucheté. Hein. Mais je crois que...
Et exceptionnellement court aussi.
Oui, exceptionnellement court. Donc, je crois que ça, c'est intéressant de se replonger dans l'ambiance de l'époque. Et ensuite, je crois que l'article final, c'est celui du président Jean-Michel Bédé-Carax. Il montre l'activité de la Société des Amis du Musée Basque et en particulier les soucis qui ont animé la société depuis...
Le début du XXIe siècle,
dont beaucoup de soucis perdurent. Et en particulier, je crois qu'il montre comment on part d'un musée dont la beauté est connue. Hier, on a parlé de la beauté de notre musée, mais le musée basque aussi. La difficulté aussi, mais ça, alors, je voulais dire en particulier que le musée, le bulletin, j'ai dit qu'il était historique avec les textes consacrés aux principaux personnages directeurs du musée, mais il a un peu un effet de parenthèse, puisque l'éditorial en début de texte de bulletin a été écrit par Sabine Cazenave, musée, et par Jean-Michel Bédé-Carax de la société. Je crois que c'est un signal aussi de l'espoir et de la certitude que les deux institutions sont proches. J'ai parlé de vaisseau amiral. Le bulletin n'a pas l'intention non plus d'être un rémora. hein, si je me permets la métaphore. Il veut avoir sa propre indépendance, mais en lien avec donc, l'activité du musée basque. Et ça, c'est au début du texte. Ensuite, il y a l'article de Sabine sur le premier fondateur. Et à la fin, donc, l'ouvrage, l'article du président. Et je crois qu'il montre bien comment la Société des Amis se demande jusqu'à quel degré elle est et partenaire et ou interlocutrice privilégiée du musée.
Merci à Charlèche Bideguin de nous avoir présenté donc ce numéro 202 du bulletin du musée basque, un bulletin du musée basque entièrement consacré au centenaire du musée, 100 ans déjà, un musée dans son siècle. Le musée basque et de l'histoire de Bayonne, qui avait fermé pendant 3 mois pour un traitement contre les insectes xylophages et qui a réouvert ses portes le 25 mars dernier. Le bulletin des amis du musée basque est disponible au musée basque à Bayonne.